et vous écoutez France Culture. Fantôme et l'homme ont conclu un accord pour se donner mutuellement de beaux souvenirs. Happy Chapong, Veracetacul. Et pas d'erreur, c'est mauvais genre. Mauvais genre en visite ce soir au musée Branly Jacques Chirac pour y découvrir, amante défigurée ou chat vampire, revenant affamé au spectre de la forêt, toutes les gens de créatures qui hantent l'exposition Enfer et Fantômes d'Asie, une équipée érudite, angoissante et délectable, indispensable à tout amateur de frissons horrifiques qui se respecte, indispensable à tout auditeur de mauvais genre. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue à Mauvais Genre, qui est ce soir donc au musée Branly pour découvrir l'exposition qui est peut-être avec celle sur le roman photo au Mucem de Marseille, le grand événement Mauvais Genre de cette deuxième partie de la saison. Nous serons en compagnie de Julien Rousseau, bonsoir.
Bonsoir.
De Stéphane Duménildo, bonsoir.
Bonsoir.
Respectivement, donc commissaire de l'exposition et conseiller scientifique pour le volet cinéma, puis Stéphane Duménildo, auteur d'ouvrages que les auditeurs de Mauvais Genre connaissent bien sur les fantômes, chez Rouge Profond également, sur les adolescentes japonaises aux éditions du Murmure, un ouvrage tout récent. Je serai en compagnie de Sixtine Audebert.
Bonsoir François.
De Fausto Fazulo.
Bonsoir François.
Son élément.
Je crois, oui.
Voilà. Ce soir, effectivement, rédacteur en chef d'Atom et de Mad Movies, on ne peut pas rêver mieux. Et de Philippe Rouillet.
Bonsoir à tous.
Donc, on va d'abord découvrir, le concept, je ne sais pas si le mot concept est bienvenu dans une exposition pareille, mais je dirais, le schéma général, l'idée de base qui a servi à la construction de cette exposition, à sa mise en place, d'autant que pour vraiment, je ne dirais pas pour la première fois, mais on assiste vraiment à une sorte de mariage réussi et très harmonieux entre, je dirais, tout ce qui est la science traditionnelle, l'érudition historique, folklorique, toutes les sciences dures, liées à de l'orientalisme, parce qu'il y a tout le folklore est là, et en même temps un élargissement très très bien conçu à ce qui est l'univers des mauvais gens, c'est-à-dire le cinéma, les jeux vidéo et la bande dessinée. Alors comment, Julien Rousseau, s'est conçue cette exposition? Comment, quelle a été l'idée de base?
Oui, donc l'exposition a été conçue comme un parcours dans l'univers des fantômes vedettes d'Asie, de leurs origines jusqu'à leurs expressions contemporaines aujourd'hui, avec bien sûr le cinéma qui traverse toute l'exposition. L'idée, c'était de montrer les différentes manifestations des fantômes selon les époques, puisque les fantômes se jouent des supports artistiques et des moyens de manifestation à toutes les époques pour apparaître, nous effrayer. Et donc, ça passe aussi bien par la peinture, les estampes, les arts du spectacle, bien sûr le théâtre, jusqu'au cinéma, aux jeux vidéo, au manga et à toute la culture contemporaine, puisque les fantômes aujourd'hui sont plus vivants que jamais en Asie.
Alors Stéphane Duménildo, de manière traditionnelle, il y aurait une exposition sur les fantômes d'Asie, puis un petit coin consacré, une petite salle consacrée à la bande dessinée, au cinéma, aux jeux vidéo, on se serait un peu dédouané, donné bonne conscience. Là, pas du tout. Il y a véritablement une volonté de montrer que le folklore traditionnel innerve comme ça, influence et d'une certaine façon se poursuit dans la création contemporaine.
Oui, c'était le projet de départ, hein. Justement, c'était pas de réserver une petite place, des petits écrans par-ci par-là, même au film, mais justement que le film soit des portes d'entrée à l'intérieur du monde des fantômes, puisque évidemment les représentants actuels de l'art des fantômes, c'est le cinéma, bien sûr.
On peut y aller, descendre, entrons dans les enfers, donc pénétrons dans l'exposition.
Pour entrer dans les enfers, il faut d'abord traverser le fleuve qui sépare le monde des morts du monde des vivants, dans la cosmologie bouddhique. Donc l'exposition commence avec le thème des enfers et des supplices infernaux en Asie orientale, donc avec la Chine et le Japon. Ici, donc après avoir traversé le fleuve des enfers, nous entrons dans les tortures des enfers et dans les jugements. Les enfers sont décrits dans les textes bouddhiques, mais ils n'ont pas été représentés en Inde, pays d'origine du bouddhisme. Ils l'ont été en premier en Chine, Donc c'est en Chine, à partir du Xe siècle environ, qu'on trouve les premières représentations des enfers sur le modèle de l'administration terrestre. En fait, on retrouve dans le monde infernal souterrain exactement l'administration et en particulier le système judiciaire médiéval avec des cours pénales présidées par des juges et donc assistées de fonctionnaires et de clercs qui vont noter les bonnes et mauvaises actions des vivants en vue de leur jugement et de leurs éventuelles tortures dans les flammes des enfers.
Voilà, que nous allons donc découvrir. Un premier écran, Stéphane Duménildo, là, qu'est-ce que c'est ?
Alors oui, alors, là, pour traverser justement le fleuve des enfers, on a fait appel à Nakagawa, Nobuo Nakagawa, qui est un très grand cinéaste, pas très connu des années 60, et surtout à son chef-d'œuvre Jigoku, elle, voilà, qui est un des films les plus délirants de toute l'histoire du cinéma, qui est une sorte de mélange entre justement les enfers bouddhiques, mais aussi des choses qui viennent de l'existentialisme. On pourrait penser à Sartre, hein, par moment, ou en tout cas à l'absurde. Voilà, c'est l'entrée dans un monde complètement absurde. Et je crois que c'est le seul film de toute l'histoire du cinéma où l'intégralité de la distribution, c'est-à-dire une trentaine, si pas plus, de personnes, meurt au milieu du film, hein, de toutes les façons possibles, et se retrouve aux enfers. Voilà. Donc c'est un film qui est complètement délirant, qui est bariolé, qui est une sorte de cabaret jazzy érotique. Voilà, donc c'est un film, on est très très content d'avoir mis des films de Nakagawa dans l'exposition, puisque c'est un cinéaste qui est majeur, hein, pour le fantastique et l'horreur japonaise, et donc on a envie de le faire découvrir aussi.
C'est vraiment une aubaine en fait de voir du Nakagawa projeté comme ça, puisque c'est un cinéaste qui est quasiment inconnu en France. Il y a très peu d'éditions vidéo en fait de ses films, donc c'est vrai que
appel aux éditeurs.
Voilà, on avait déjà lancé une bouteille à la mer, puisqu'on avait passé quelques extraits de Jigoku lors de la soirée des 20 ans de Mauvais Genre. Et c'est vrai que c'est Jigoku, donc Enfer en japonais, c'est un film absolument génial. C'est vrai que, comme le disait Stéphane Duménildo, Nobuo Nakagawa, c'est vraiment le grand réformateur en fait de l'horreur japonaise. Et puis surtout, si on s'amuse un petit peu à remonter le fil de l'histoire du cinéma fantastique, c'est vrai que Jigoku, c'est presque le tout premier film gore, puisqu'il anticipe en fait tout ce que va faire en fait par la suite Herschel Gordon Lewis.
Alors nous avons continué notre progression en terre infernale, longée des estampes où sont représentés les supplices les plus raffinés, les plus ingénieux pour torturer et faire expier les damnés. Et là, Julia Rousseau, Stéphane Duménildo, nous sommes dans la gueule de la bête, puisque donc il y a une véritable portique qui représente la gueule ouverte d'une sorte de monstre infernal qui avale le visiteur, avec de part et d'autre des mains maigres, dressées, comme qui doivent être les mains des damnés qui implorent pitié ou qui tentent de s'extraire du magma. Qu'est-ce que c'est ? Parce que là, ça n'est pas un objet archéologique, là.
Oui, exactement. Donc là, nous entrons vraiment dans cette porte terrifiante des enfers, qui a été conçue par le studio de cinéma QFX Workshop de Bangkok, qui est un studio de cinéma spécialisé dans les maquillages, les mannequins, les effets spéciaux de films d'horreur. Et donc, qui a collaboré avec le musée pour réaliser certaines sculptures et installations que l'on retrouve à divers endroits de l'exposition.
La gueule, c'est quoi là ?
Donc, c'est la porte des enfers avec une tête qu'on appelle le motif de Kala, qui représente la destruction et l'idée de mort, qui accueille, si on peut dire, le visiteur des enfers.
Alors, on va entrer en enfer. Donc, continuons, progressons. Nous sommes face à un nouvel écran qui est peut-être encore plus terrifiant que le précédent, puisque là, on est véritablement dans une sorte de représentation figurée de la souffrance et des tortures infernales. Stéphane Duménildo.
Alors oui, là, on est passé aux enfers thaïlandais, hein, qui sont encore plus fous que les enfers japonais. Alors c'est Narok, un film de Sadit Pratsitam et Thikkayu Thamilayakul, donc qui date de 2005. et qui raconte comment des jeunes gens se retrouvent aux enfers alors que leurs corps sont encore vivants, finalement. Ils sont dans le coma, donc ils vont essayer de s'évader des enfers pour reprendre leur vie. Alors là, c'est typique de ce que vous voulez montrer aussi du cinéma thaïlandais, voilà, qui a un univers beaucoup plus gore, qui est beaucoup plus carnavalesque et délirant que peut-être ce qu'on a pu voir avec le Japon. Donc là, ce sont deux choses différentes. Et là, ce sont des enfers qui pourraient se ressembler à Cannibal Holocaust par moment. Hein. C'est vraiment extrêmement gore et complètement fou, quoi.
Oui, avec l'arbre des damnés, c'est un espèce de truc assez fou. Avec, en fait, c'est des pics et les corps nus s'enfournent. Et alors, moi, ce que je trouve formidable, c'est que d'une part, vous avez l'extrait. Alors, d'autre part, il y a la création en 3D comme une sculpture. Elle vient d'où, en fait, la sculpture? C'est une illustration d'après le film. Enfin, c'est la même légende.
Alors, il s'agit d'une torture classique, en effet, des enfers, l'arbre à épines. Donc, les suppliciés sont obligés de monter et descendre, tandis qu'ils sont torturés par un gardien des enfers. Et donc, cette torture concerne surtout les coupables d'adultère, d'après les textes bouddhiques. Et on la retrouve donc dans l'ensemble du monde bouddhiste. Donc, parfois, elle est remplacée par des montagnes de couteaux. Mais voilà, dans tous les cas, c'est une torture que l'on retrouve souvent et qui est illustrée le plus souvent aussi dans les peintures de manuscrits ou les peintures murales des temples pour illustrer les enfers. Et là, il s'agit donc d'une installation réalisée par le studio QFX Workshop de Bangkok, toujours.
Oui, c'est ce qui fait la marque et la force de cette exposition, c'est son côté train fantôme, puisque vous êtes sorti, je dirais, de la photo, de la représentation, pour véritablement plonger le visiteur dans la sensation de l'horreur. Puisque là, je répète ce que disait Philippe, on a vraiment l'arbre hérissé de piquants et le corps sanglant qui s'enferre, qui s'empale, qui se colle véritablement. Enfin, là, on est dans le train fantôme, on n'est plus dans une exposition presque.
L'idée de la scénographie, c'était vraiment déjà d'associer des artistes contemporains, donc qu'il s'agisse du milieu du cinéma ou des peintres de l'art vivant, vraiment l'expression contemporaine du sujet aujourd'hui en Asie. Et puis c'était aussi de concevoir cette exposition un petit peu comme un film avec du décor de cinéma conçu spécialement pour l'exposition.
Il y a 2 ans, on est allé au Japon et puis on a visité quelques scary houses, c'est-à-dire les attractions, les maisons hantées qu'on trouve dans les fêtes foraines japonaises, voilà, qu'on les retrouve un peu, surtout en été, après à travers tout Tokyo. Et là, ce sont des maisons hantées qui sont très traditionnelles, c'est-à-dire qu'on ne va pas voir arriver Leatherface ou Freddy, on va voir vraiment arriver les fantômes japonais, qui d'ailleurs sont joués par des étudiants qui font des petits jobs d'été et qui passent leur été dans la maison hantée, voilà.
Oui, puisque ce qu'il y a de particulièrement spectaculaire avec les représentations à l'échelle, si je puis dire, c'est que juste avant, en fait, on a vu des représentations de l'enfer peintes. Là, on a vraiment droit à un détail. Et c'est vrai que, vu que les représentations des enfers bouddhiques sont extrêmement détaillées, il y a plein de micro-scènes, en fait. On est obligé de se focaliser, de faire très très attention aux endroits du dessin sur lesquels on a envie de s'attarder. Et là, on a droit à un zoom à l'échelle humaine, donc c'est particulièrement spectaculaire. Là, l'immersion est vraiment totale.
Et c'est en même temps ce qui existe aussi dans les temples aujourd'hui en Thaïlande, par exemple, les temples avec ces jardins des enfers qui sont des installations de sculpture, voilà, grandeur nature de ce qu'on peut retrouver aux enfers en fonction des différentes mauvaises actions commises. Donc c'était aussi pour illustrer ce genre de sculpture contemporaine.
Ce qu'on aime beaucoup par exemple aussi dans l'extrait de Narok, c'est que le côté très gore et violent, finalement, est tout à fait en accord avec des représentations beaucoup plus anciennes. Voilà, donc ils repuisent dans leur propre culture, leur propre iconographie pour créer leur cinéma. Et il y a même un côté avec ces effets spéciaux numériques qui datent de 2005, il y a un côté peinture aussi, hein, c'est très peinturluré, on va dire.
Thank you. Alors là, messieurs, quelque chose de beaucoup plus, apparemment moins spectaculaire, moins coloré, moins baroque et moins délirant, mais tout aussi angoissant. Nous sommes devant un coin de couloir, une sorte de coin de corridor noir, et brusquement, on voit une main qui apparaît dans la cloison, et ensuite, une jeune fille ensanglantée qui apparaît aussi. Donc là, on n'est plus dans le monde infernal, on est dans le monde fantomatique, spectral. Là aussi, volonté d'immerger complètement le visiteur.
Oui, bien sûr. Donc nous entrons dans la deuxième section de l'exposition, Fantômes errants et vengeurs, où nous sommes accueillis par un fantôme qui sort du mur, hein, et qui est interprété par Yoko Higashi. Une actrice qui a interprété spécialement pour l'exposition des personnages de fantômes japonais et qu'on présente à partir de différents dispositifs de présentation dans l'exposition. On la retrouvera plus tard aussi. Donc cette partie, elle parle vraiment des histoires de fantômes. Donc nous gardons une présentation géographique toujours tout au long de l'exposition. Donc nous commençons avec les fantômes du Japon qui apparaissent dans le théâtre No avec le personnage de Hanya par exemple, et puis surtout avec le théâtre Kabuki à l'époque Edo, où donc on a à la fois le développement de toute une culture du divertissement donc dans cette nouvelle capitale Edo, donc l'ancien nom de Tokyo, et aussi l'apparition de ce nouveau genre de théâtre qui est le Kabuki, qui est un théâtre maquillé qui utilise tout un ensemble d'effets spéciaux très spectaculaires et très populaires à la fois, et qui va vraiment rendre très populaires ces histoires de fantastiques et les histoires de fantômes, avec en même temps le développement aussi de l'estampe. Ce procédé de reproduction d'images en couleur et bon marché qui va permettre aussi au public amateur de théâtre de collectionner les portraits d'acteurs et aussi qui va renforcer le succès aussi du théâtre.
Alors donc là, une vitrine où les roseaux un peu blêmes sont agités par le vent. Derrière, un masque, un fantôme avec un masque, une sorte de tunique. Et Stéphane Duménildo, là, on est quand même devant un écran où passent des extraits d'Oni Baba, qui est un des classiques, je dirais, du film spectral japonais.
Oui, Oni Baba de Kaneto Shindo, évidemment, c'est un des plus beaux films de fantômes tournés. Et oui, on avait envie de montrer à la fois donc ce personnage de Nibaba donc qui surgit des roseaux avec le masque d'Anya, et puis de montrer aussi Anya, voilà le masque à côté avec un effet de diorama avec les roseaux qui passent devant notre figure, notre mannequin.
Alors ce que je trouve formidable, c'est qu'en face de cet écran, il y a l'estampe d'Okuzai avec le fantôme de cette servante qui sort du puits dont le corps est presque constitué dans les assiettes qu'elle a cassées de son vivant, mais cette figure spectrale qui sort du buis va annoncer complètement Ring, alors que c'est un tableau de 1831-1832, ça annonce le film de Nakata, dans le style, l'espèce de fantôme qui sort du buis, le fantôme féminin qui sort du buis.
Oui, exactement, et en plus, les assiettes brisées rappellent le décompte des jours, hein, puisqu'elle brise les assiettes pour rappeler qu'elle a été condamnée, hein, pour avoir brisé les assiettes du Seigneur. Et elle sort d'un puits, en effet, et le film de Nakata, justement, la fameuse scène où Sadako sort de la télévision, on va dire qu'elle part du fantôme classique, puisqu'elle sort d'un puits, et puis elle sort ensuite d'une télévision. Donc elle relie les deux époques de l'horreur japonaise.
Là, il y a des estampes avec des figures traditionnelles de fantômes et de spectres. Apparaît là, alors là, ça doit être la femme chat, je pense, avec les oreilles dressées. Et à côté, donc, un des moments forts pour les amateurs de cinéma de genre, donc de cette exposition, c'est le pavillon, j'ai presque envie de dire, comme dans les expositions universelles, le pavillon J-Horror, Stéphane Duménildo.
Oui, on avait envie vraiment que les visiteurs entrent à l'intérieur de la J-Horror. Voilà, donc qui est un des courants majeurs du cinéma d'horreur des années 2000, et puis même un peu avant, si on en reste uniquement au Japon. Donc on a un extrait de Cairo, on a évidemment un extrait de Ring, hein, qui est donc la grande figure fantomatique contemporaine, et puis un extrait de Ju-On. Alors c'est Ju-On version vidéo, hein, pour les spécialistes, hein, ce ne sont pas les Ju-On sortis au cinéma. Alors oui, en effet, la J-Horror, ça commence réellement au début des années 90, puis ça devient extrêmement populaire dans toute l'Asie et partout dans le monde à partir de 1999 avec Ring. Et c'est un genre qui naît de façon très modeste, hein, avec des films qui sont distribués uniquement en vidéo dans les vidéoclubs et qui vont s'implanter justement dans la vie quotidienne du Japon. C'est-à-dire, qu'est-ce qui fait peur la J-Horror ? Justement, on n'est plus dans les marais d'Edo, on n'est pas dans ce côté très, très patrimonial, par exemple, un château en Écosse. On est dans des ascenseurs, dans des petites pièces, petits appartements japonais de quelques tatamis. On est dans des écoles avec des gymnases et des piscines. Donc ce qui fait peur, évidemment, c'est quand un fantôme apparaît dans un ascenseur. Évidemment, c'est ça qui est vraiment terrifiant.
Est-ce qu'on pourrait dire, d'une certaine manière, qu'avec le basculement dans la modernité, et donc le passage finalement d'une vision des enfers qui a un rôle moralisant, pédagogique, vers une culture du divertissement, est-ce qu'il n'y aurait pas une sexualisation finalement du discours et donc finalement énormément de femmes fantômes qui sont représentées ?
La femme fantôme, elle existe en tout cas depuis Edo. On le verra tout à l'heure avec l'histoire d'Oiwa, donc le fantôme vengeur. Donc la femme évidemment est la figure majeure, hein, du fantôme japonais. Alors pourquoi ? Ben sûrement parce que c'était une période extrêmement violente, extrêmement masculine. On sortait de guerres de seigneurs qui avaient dévasté le pays. Donc il y avait une culture très très bushido, hein, très on va dire machiste. Et une femme qui était assassinée, je pense qu'on n'en faisait pas grand cas. Voilà. Donc c'était une façon. Le fantôme venait réclamer justice. Mais le basculement qui est très intéressant entre justement l'horreur classique et la J-horror, c'est qu'on n'est plus dans une horreur qui est... le fantôme n'accomplit plus une vengeance déterminée vers quelqu'un qui lui a fait du mal. Là, on est dans une horreur, une vengeance virale. Hein. Mm-hmm. C'est-à-dire que la hantise se transmet par des cassettes vidéo. Alors, il suffit de regarder la cassette vidéo de Ring... où apparaît Sadako pour être maudit et mourir une semaine plus tard, alors que par ailleurs, on n'est absolument pas responsable de ça. C'est pareil pour Ju-On, hein, la série The Grudge de Shimizu, voilà, qui présente une figure qui est bizarre, qui est une sorte de femme au foyer, en fait. Hein, c'est le fantôme de la femme au foyer. Il suffit qu'on rentre, qu'on passe 5 minutes dans la maison de Ju-On pour se retrouver maudit. Donc il y a quelque chose qui est moins déterminé. Alors... on peut trouver beaucoup d'interprétations. Moi, j'en ai une, hein, c'est que, on est au moment en 95, c'est un moment de crise au Japon, hein, de crises diverses. Il y a un tremblement de terre absolument meurtrier. Il y a la crise économique. Et puis, il y a aussi l'attentat au gaz sarin, de la secte Om. Voilà, dans le métro. Donc, c'est l'attentat au gaz sarin, c'est une horreur qui se diffuse, hein. C'est une mort qui se diffuse, qui est invisible, qui est perpétrée par des gens qui sont comme vous et moi, hein. C'est la personne anonyme qui prend le métro à côté de soi et qui ouvre des bouteilles et qui répand ça dans un wagon. Et surtout, elle obscurcit la vision. Voilà, le gars sarin obscurcit la vision. Et on remarque dans les films de Kiyoshi Kurosawa, de Nakata, il y a une image qui est extrêmement sombre, extrêmement grisâtre, qui a l'air d'être emplie d'une sorte de fumée, en fait. Et j'ai l'impression, voilà, qu'on sent toute cette erreur millénariste dans la J-Horror. Voilà, les Japonais pensaient vraiment que la fin du millénaire, ça allait être la fin du Japon. Ils avaient trop tellement supporté de choses tellement, tellement bizarres. Et ils avaient vu, par exemple, voilà, les adolescentes se prostituer à Shibuya. Quelque chose d'inimaginable qui a fait scandale dans tout le Japon. Donc ils se disaient, voilà, c'est fini. C'est fini, le Japon va s'effondrer. Et je pense que la J-Horror, c'est le genre en particulier qui porte ces angoisses-là.
Ce qui est vraiment d'intéressant dans le dispositif, là, c'est retrouver le côté en fait grisâtre de la J-Horror, l'écho un peu architectural, c'est-à-dire le péril urbain, le fait que finalement ce type de fantôme-là peut se nicher dans n'importe quelle ruelle tokyoïte, à n'importe quel étage. On retrouve ça, et puis surtout le fait de voir les images projetées aussi grand. Là, juste derrière nous, il y a effectivement le travelling avant jump cut qui est l'un des plus terribles de l'histoire du cinéma horrifique. Ça fait vraiment quelque chose. Et puis là, quand on est au centre d'une pièce effectivement entourée de fantômes, avec cet aspect grisâtre et puis aussi cet aspect très vidéo qu'il y avait en fait dans les premières productions J-Horror un petit peu fauchées, où on se retrouve avec ce type d'image délavée, assez triste, assez quotidienne, où finalement on peut aussi raccrocher ça à une sorte de désespérance urbaine que vivent certains Japonais tous les jours.
Pour revenir sur l'iconographie de la femme fantôme au Japon, qui retrouve dans la J-Horror, qui est directement inspirée, qui reprend cette image de la femme fantôme de l'époque Edo avec ses cheveux décoiffés, son linceul blanc. on retrouve directement en fait cette image qui a été créée par l'artiste Maruyama Okyo. Donc, qui est dans l'exposition, on peut voir cette salle juste après la section consacrée au théâtre et aux estampes. Parce qu'on a parlé tout à l'heure des estampes de Kusai, mais il y a un artiste aussi qui est moins connu en France et qui a vraiment créé cette image aussi de la femme fantôme de l'époque Edo. C'est donc Maruyama Okyo au XVIIIe siècle qui a vraiment créé le genre de peinture de fantôme. Donc là, ce ne sont plus des estampes, c'est-à-dire des images reproduites en série, ce sont des peintures originales. Et qui était utilisé dans des séances, en particulier dans des séances de sortes de séances de spiritisme à l'époque. On appelait les veillées aux 100 bougies, et pendant lesquelles donc on se rassemblait pour se raconter des histoires effrayantes à la lueur des bougies, et à la fin de chaque histoire, on éteignait une bougie, de manière à plonger la pièce dans l'obscurité et à susciter l'apparition d'un fantôme. Donc Maruyama Okyo, le premier, représente donc cette femme fantôme désarticulée, aux cheveux décoiffés, qui n'a pas de pied aussi, ça c'est un des traits caractéristiques du fantôme. Et on va le retrouver assez directement dans le cinéma jusqu'à aujourd'hui.
On pourrait dire qu'à l'époque Edo, c'est là où le fantôme entre dans la pop culture en fait. Voilà, il entre dans le théâtre, il y a des affiches à collectionner, il y a les débuts du manga, donc avec Okusai. Donc il y a ce théâtre très spectaculaire Kabuki, donc on quitte un peu le côté très très fantomatique et cérémonial du no pour aller vers les sensations fortes, à la recherche de l'horreur. Là, on va dire, tous les éléments sont déjà là pour aboutir à ce qu'on connaît maintenant, quoi, au cinéma, au manga et à la collection de figurines et des choses comme ça.
Alors nous sommes sortis du bunker sombre, terne et désolé de la J-Horror, qui est l'horreur existentielle quotidienne japonaise, pour là être confronté, Julien Rousseau, à Oiwa, qui est une des figures maîtresses de la monde fantomatique japonais.
Oui, donc nous sommes dans la partie fantôme superstar du Japon, et le fantôme vedette au Japon, le plus connu bien sûr, c'est Oiwa, qui est surtout connu pour cette estampe d'Okusai qui représente donc le visage de cette femme fantôme défigurée, puisqu'elle a été défigurée par son mari qui lui avait offert des cosmétiques piégés à l'acide et qui a essayé de se débarrasser d'elle par des moyens vraiment les plus atroces. Et donc Okusai représente ce visage de femme fantôme brûlée, défigurée, dans une lanterne incandescente, donc ce visage qui s'amalgame avec la fumée de la lanterne. Et c'est ce qui nous a inspiré pour réaliser cet hologramme avec le studio Adrénaline et l'interprétation donc du fantôme d'Oiwa par Yoko Higashi. Voilà, donc un hologramme qui représente ce fantôme vedette du Japon.
C'est vrai qu'on avait envie... À côté du cinéma, à côté des œuvres d'art, on avait envie de créer des fantômes, de faire apparaître des fantômes à l'intérieur de l'exposition. Et c'est vrai que là, on a eu beaucoup de chance hein, de rencontrer Yoko Higashi, qui est aussi une danseuse buto. Voilà, buto, la danse des ténèbres, donc, qui est aussi une façon de créer un lien avec aussi l'art contemporain, la danse contemporaine. Et en face, on a un extrait des Tokaido Yotsuya Kaidan ou Histoire de fantômes japonais, encore un film de Nakagawa, voilà, qui est l'équivalent, on va dire, je pense qu'on peut dire que Nakagawa c'est l'équivalent d'un Terence Fisher ou d'un Mario Bava pour l'Occident, c'est-à-dire quelqu'un qui a soudain fait passer le film d'horreur japonais à sa modernité en tournant en couleur, mais en allant toujours puiser dans le patrimoine. C'est-à-dire que voilà, il va prendre la pièce Kabuki, il comprend que voilà, si on filme le visage d'Oiwa défiguré en gros plan, on obtient un effet qui est évidemment terrifiant. Il va faire des marais, il va filmer des marais de studio avec de la fumée. Il va avant même le masque du démon ou les films de Bava, il va éclairer de lumière rouge et verte ses décors. Voilà, qui sont de toute façon des couleurs du kabuki. En tout cas, il fait passer ça à l'intérieur du cinéma et c'est vraiment le premier grand cinéaste d'horreur moderne.
Avant le cinéma d'horreur japonais, c'était par exemple chez Mizoguchi, les contes de la lune vague après la pluie. C'était beaucoup plus esthétisant, beaucoup moins agressif, mais avec déjà des motifs comme le brouillard.
Oui, bien sûr, il y a ce côté, il y a Mizoguchi, bien sûr, avec les contes de la lune vague, mais il y a aussi des séries qu'on ne connaît pas très bien, qui sont les séries L'histoire de femmes chats, voilà, les Kaibyo, dont on présente des extraits, puis aussi une autre création de Yoko Higashi. La Kaibyo, c'est la femme, c'est la Catwoman, la Catwoman et la sorcière, en même temps, c'est la femme qui se transforme en chat pour également accomplir une vengeance. Alors c'est assez curieux parce que cette femme chat, on ne sait pas très bien ce qu'elle est en fait. Généralement, ça commence avec un seigneur qui viole une femme, un de ses sujets. La jeune femme se suicide et le chat de la maison vient laper le sang de sa maîtresse. Et le chat va en quelque sorte convoquer un esprit, qui est donc la Kaibyo, qui va ensuite parasiter la famille du seigneur, s'introduire dans le château du seigneur sous la forme d'une femme, voilà, d'une servante, et ensuite exercer sa vengeance. Et évidemment, comme c'est aussi un chat, elle ne se contente pas d'exercer sa vengeance sur le seigneur lui-même, elle va commencer à jouer avec un peu tout le monde, à tuer un peu tout le monde autour d'elle. Donc il faut l'arrêter. Donc c'est un personnage très, très, très ambivalent. La femme chat. Et je pense que ça vient aussi, sa popularité au cinéma vient aussi du fait que il n'y a pas de vampire ni de loup-garou dans la mythologie japonaise. Donc, il fallait trouver un peu comme une sorte d'équivalent. Et c'est vrai que la femme chat, c'est déjà un monstre à transformation. Donc, elle est une femme qui se transforme en chat. Puis, c'est un vampire aussi. Elle lèche le sang, etc. Donc, je pense que la femme chat est venue occuper un vide. Et ça a créé aussi les premières stars féminines du cinéma d'horreur au Japon.
Plusieurs vitrines consacrées à des créatures que les Français connaissent de mieux en mieux, ce sont les yokai, Julien Rousseau, puisqu'elles ont été diffusées massivement par la bande dessinée, le cinéma, les produits dérivés et même les applications smartphones.
Oui, bien sûr, les yokai existent depuis bien longtemps dans l'art japonais, mais c'est vrai qu'ils avaient quasiment disparu depuis la fin de l'époque Edo, et il y a eu une vraie renaissance de toutes ces créatures fantastiques dans la deuxième moitié du XXe siècle, notamment grâce au manga, aux films d'animation, et aussi grâce à l'artiste Shigeru Mizuki, donc qui est connu pour sa série de Kitaro le repoussant, donc qui était au départ un personnage de Kami Shibai, donc ce sont des conteurs ambulants donc, qui racontent des histoires pour les enfants. Et donc ce personnage a été adapté en manga et en film d'animation. Et aujourd'hui, il est devenu un des yokai les plus célèbres du Japon. Et donc Mizuki s'inspire à la fois de tous ces artistes, ces grands maîtres de l'estampe fantastique de l'époque Edo, Okusai, Toriyama, Sekien, aussi de ce genre de peinture sur rouleau, comme on peut le voir dans l'exposition, ces anciennes peintures du cortège nocturne des 100 démons, donc qui est une des premières iconographies des yokai et de la procession des yokai. Et on peut voir aussi dans l'exposition certaines planches originales de manga, donc Mizuki bien sûr, mais aussi une planche originale d'Osamu Tezuka de la série Dororo, qui reprend aussi ses personnages de yokai. Aussi Maruo, voilà, qui est dans un univers plus gothique, et aussi beaucoup d'autres yokai.
Et on voit ici un ensemble de mangas des années 1980 dont vous aviez dit qu'il était destiné à un public féminin. Est-ce que ça s'apparenterait finalement aux lectures de romans gothiques en France ?
Oui, on peut dire ça. Ben, l'horreur est destinée aux filles, hein, c'est curieusement, au Japon. Enfin, c'est pas curieux d'ailleurs. Je dirais que c'est plutôt tout ce qui est expansif, la guerre, la conquête, le sport, ce genre de choses est plutôt destiné aux garçons, les histoires de robots guerriers par exemple, tandis que pour les filles on aurait tout ce qui est intensif, hein, les sentiments en particulier, donc les histoires sentimentales. Et les romans, les mangas d'horreur, hein, sont jamais que la survivance des sentiments après la mort, donc on peut l'expliquer comme ça. Donc elles étaient extrêmement friandes des mangas d'horreur, donc on voit même certaines images qui ressemblent énormément à ce qui se fera ensuite dans la J-Horror. Là on voit une écolière pendue, fantôme, ce genre de choses. Et je pense que la J-Horror a été testée d'abord par le manga. D'ailleurs, les premiers films de J-Horror qui étaient des films distribués directement dans les vidéoclubs, qui s'appelaient Scary True Stories de Norio Tsuruta, était adapté d'une série de mangas où c'était les jeunes filles qui écrivaient à l'éditeur, qui racontaient leurs histoires de fantômes, qui ensuite étaient dessinées, qui étaient représentées par les dessinateurs. Donc elles pouvaient lire leurs propres aventures à l'intérieur du manga. Voilà, donc il y a ce lien qui est extrêmement fort entre les jeunes filles japonaises et les histoires de fantômes. Et d'ailleurs, bon, on peut dire que c'est pareil aussi en France, hein, quand on voit dans les internats, par exemple, il y a toujours des histoires de filles qui font du spiritisme, qui se sont rendues compte que leur grand-père n'était pas leur grand-père, enfin des choses comme ça, ça crée des drames, c'est fabuleux.
Alors, dernière étape essentielle de cette visite de l'exposition Enfer et Fantômes d'Asie à Paris au Quai Branly, c'est l'univers, alors là, non plus japonais ni chinois, mais l'univers thaïlandais. Comment dit-on, Julien Rousseau, des pis, des filles ?
Des pis.
Des pis. Ouais. Alors là, vous avez fait une nouvelle fois très fort, puisque avec le studio avec lequel vous avez travaillé, on voit se dresser devant nous des créatures de 4 mètres, absolument fascinantes, avec des pieds énormes, des langues pendantes au milieu du torse, des mamelles complètement affaissées, des mains gigantesques qui ne demandent qu'à vous écrabouiller. Et tout autour, de superbes affiches, l'équivalent thaïlandais des affiches de la Hammer. Donc là, on change d'univers, on n'est plus dans le monde terne, écrasé, gris, de la J-Horror et de l'horreur existentielle japonaise. On retrouve le flamboiement baroque et délirant du folklore horrifique.
Oui, oui, tout à fait. Alors nous sommes à la fois dans un univers qui est influencé par le bouddhisme et donc ces créatures infernales que sont les piprêtes, donc les revenants affamés. Donc comme ces deux géants qui accueillent le visiteur à l'entrée de cette partie.
Verdâtre à souhait.
Voilà, c'est tout à fait spectaculaire. Donc on est ravis de les avoir ici au musée. Et en même temps, on est dans un univers qui est très proche de la jungle, de ces créatures donc qui sortent de ce monde sauvage donc de la jungle et qui sont directement liées au folklore populaire, aux croyances anciennes donc à tous ces pis, donc ces esprits. Donc pis, c'est un concept générique, hein, qui regroupe à la fois des génies de la nature, des lieux qui peuvent être protecteurs aussi, mais qui désigne également donc les fantômes et les mauvais esprits qui sont associés donc à la jungle. Et les pis donc sont souvent des esprits de la culture populaire, donc qui sont encore très présents aujourd'hui dans la religion populaire et quotidienne, autant en ville qu'à la campagne. Ils sont directement ces esprits qui sont sortis de la jungle et qu'on retrouve aujourd'hui dans le cinéma. On a par exemple Picrasu, qui est cette tête volante et particulièrement vorace, donc c'est vraiment, il incarne parfaitement ce côté prédateur de l'esprit de la jungle en Thaïlande. Donc c'est une femme qui est d'apparence normale la journée, si ce n'est qu'elle ne cligne jamais des yeux, mais à la nuit tombée, elle va aller se cacher derrière un bosquet, sa tête va s'échapper de son corps avec ses entrailles et elle va partir s'envoler en quête de toutes les nourritures les plus impures et plus horribles qu'elle va trouver. Et elle va chercher aussi à chasser les petits animaux et aussi les enfants et les bébés qui sont sa nourriture favorite.
Alors là, on est dans un espace où le cinéma le plus auteuriste, hein, celui de Happy Chapon, Vera Cetacool, se mélange avec une sorte de série B, parce que justement, on voit des extraits de films avec cette figure de Crassus, c'est assez kitschos. Enfin, je veux dire, il y a des effets spéciaux un peu cheap, l'espèce de fantôme volant, ça clignote, c'est assez beau, mais enfin, on est loin du côté contemplatif d'Happy Chapong.
Oui, on en est loin, et puis en même temps, ça se rejoint, parce que je vois dans Oncle Bonnemi, on voit aussi des créatures de la forêt qui apparaissent, qui sont un peu kitsch aussi, avec les yeux qui brillent. Et dans Cemetery of Splendor, on voit des extraits aussi, les personnages vont voir des films d'horreur au cinéma. Donc je pense que Happy Chapong, évidemment, il englobe toute cette culture-là, et ce sont des choses qu'il aime aussi. Et en effet, on présente dans une salle qui est un peu excentrée de l'exposition, puisque on veut préserver un peu de mystère, et puis aussi ce sont des extraits particulièrement corsés. On présente des films d'horreur, donc ça s'appelle The Thai Horror Picture Show, où on présente par exemple un extrait de Demonic Beauty qui est consacré à Craswick, en effet un film assez kitsch d'ailleurs. Bon, c'est un village thaïlandais où toutes les filles du village ont l'air de sortir de l'édition thaïlandaise de Playboy, par exemple, c'est complètement hilarant. Et la tête volante avec ses dents pointues et son cœur qui clignote poursuit les enfants. Et ça a l'air en effet d'être un peu plaqué, ces effets spéciaux un peu datés, un peu kitsch, mais qui justement rajoutent à ce côté carnavalesque. Et on présente aussi un film que j'aime beaucoup, qui s'appelle The Spiritual World, qui vient à la fois de la vague de... inspiré par la vague de horreur japonaise, mais aussi de choses comme le sixième sens, parce que c'est une jeune fille qui voit des fantômes qui la poursuivent à l'intérieur dans Bangkok. Et j'aime beaucoup la vision que ça donne de ces villes thaïlandaises qui sont à la fois très très modernes, mais qui sont aussi complètement déliquescentes. On a l'impression justement que ce monde de la forêt, de l'humidité, est en train de se réinfiltrer, de reprendre ses droits à l'intérieur de mégalopoles qui par ailleurs ressemblent à toutes les grandes mégalopoles japonaises, très très bétonnées, avec des immeubles en verre. Mais on sent que quelque chose est toujours tapis en dessous.
C'est vrai qu'on a cette axiologie de la morale qui produit des représentations carnavalesques, et on a en fait du coup le déploiement de cette esthétique du bas corporel, du corps grotesque, énormément dans ces représentations. Vous parliez tout à l'heure de Crasseux avec juste cette tête et ses intestins qui dévorent. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire de cette dimension vraiment carnavalesque du cinéma thaï?
Alors la dimension horrible, oui, presque caricaturale, oui, des revenants affamés, par exemple. Là, on est, en fait, c'est la seule catégorie vraiment de fantômes et de revenants qui est directement issue du bouddhisme, puisque donc les piprettes sont des prêtas des textes bouddhiques, donc qui viennent à l'origine des textes indiens. Donc ils sont communs à l'ensemble du monde bouddhique, on les retrouve un peu partout. Et c'est vrai qu'ils ont ce côté atrophié, vraiment spectaculaire, avec ces bouches toutes petites. On les décrit petites comme le chat d'une aiguille qui les empêche finalement de se nourrir et de mettre fin à leur souffrance. Ce sont des revenants affamés, donc qui viennent sur Terre chercher de la nourriture. Mais donc leur laideur et leur horreur, elles renforcent la portée édifiante, en fait, finalement, de ces créatures, puisqu'elles sont là uniquement pour rappeler l'existence des enfers et rappeler les principes de la morale bouddhique. Et en particulier, les piprettes, ça peut être des personnes qui n'ont pas fait d'offrande au monastère, par exemple, les gens qui sont radins, ça c'est terrible. Dans le bouddhisme, c'est vraiment une des choses Enfin, voilà, le don, c'est une religion du don, donc qui repose beaucoup sur les dons au monastère, la générosité. Voilà, c'est une vertu qui est particulièrement importante. Mais les revenants affamés, ça peut être aussi des âmes de défunts qui n'ont pas reçu d'offrande de nourriture, donc qui n'ont pas bénéficié du culte funéraire et du culte des ancêtres, donc qui vont adopter cette forme et qui vont devenir ces revenants affamés. Voilà, donc ça, c'est pour la dimension qui devient, oui, assez très forte, très caricaturale, puisqu'elle a une dimension pédagogique. Donc l'horreur a aussi une dimension salutaire dans le bouddhisme, puisqu'elle est là pour rappeler aussi les conséquences des mauvaises actions.
Et dans le parcours de l'exposition, on commence avec des fantômes qui sont très immatériels. C'est les fantômes japonais qui sont des images, en fait. Ils apparaissent dans la fumée, ou des estampes en deux dimensions, des choses comme ça. Qui sont, je dirais, des fantômes, on les pourrait dire des fantômes sans contact, en fait. Hein. Ils apparaissent, ils créent des hallucinations et ils rendent fous les personnes qu'ils hantent. Et peu à peu, on va voir les fantômes se prendre corps, hein, se corporaliser, prendre de la chair, et avant, surtout en Thaïlande. Et c'est pour ça donc que les films deviennent plus gore, plus corporels, plus sanglants, où il y a des viscères, des entrailles, des choses comme ça. On ne verra pas un fantôme japonais touché, par exemple, il n'y a pas de contact, tandis que la violence entre fantômes et êtres humains est présente en Thaïlande, et puis encore plus en Chine, où là, on va carrément avoir des combats de kung-fu, par exemple, avec les spectres.
En Thaïlande, c'est vrai que la question du fantôme vorace, et plus généralement des spectres voraces, est très importante, puisqu'on le disait tout à l'heure, par rapport au bouddhisme, la question du don, l'offrande de nourriture, c'est quelque chose qui est très important, central dans la culture populaire. Et tous ces esprits, en fait, il faut les nourrir. Donc les esprits, on parle souvent de culte des esprits, littéralement on le désigne par l'expression « nourrir les esprits ». Donc tous les esprits civilisés, par exemple les esprits qui ont un rôle plutôt protecteur, qui sont liés à un lieu, qui sont associés à un lieu, donc qui ne sont pas des esprits errants, ces esprits-là, il faut les nourrir quotidiennement. L'esprit de la maison, l'esprit du village, l'esprit même de la province, enfin voilà, il y en a différents échelons de la société. Et en revanche, les esprits sauvages de la forêt sont des esprits qui ne sont pas associés à un lieu particulier, donc ils sont assez imprévisibles, et qu'on ne va pas arriver à nourrir, à civiliser, en fait, par l'offrande de nourriture. Donc ils vont aller s'échapper donc de la jungle et pour venir dévorer tout ce qu'ils trouvent.
Show. Là, effectivement, on peut voir toute une série d'extraits de ces films dont nous venons de parler. Fausto Fazzulo, c'est d'autant plus précieux que c'est, là encore, pas de DVD, pas de Blu-ray. Heureusement qu'il y a le musée Branly.
Du moins, en France, oui, effectivement, c'est une cinématographie qui est assez peu exposée, assez peu connue aussi. Je pense que c'est dû à, comment dirais-je, à son exotisme d'une certaine façon. C'est-à-dire que ce qui est très appréciable dans ces films-là, c'est l'extrême premier degré, parce que les Thaïlandais rigolent assez peu en fait avec les fantômes. Il y a d'ailleurs un texte qui revient là-dessus dans le catalogue de l'exposition. Et c'est vrai que nous, on opère toujours une certaine distance par rapport à ça, un petit peu goguenarde, alors que eux sont vraiment dans un premier degré total, une frontalité absolue. Je pense que l'extrait parle pour lui-même, là, en l'occurrence.
Oui, alors on peut décrire pour nos auditeurs, donc un homme qui est dans un hôpital, couché donc dans son lit, est chevauché par son épouse ou sa maîtresse, qui est blême, et était en train de lui extraire du ventre tout ce qui est viscère, extrêmement méticuleux. Là, elle ne fait grâce d'aucun centimètre de l'estomac et de l'intestin. Et ensuite, que va-t-il se passer?
Elle ouvre son propre ventre avec son fœtus à l'intérieur.
Donc elle en extrait le fœtus qu'elle introduit dans le ventre de son mari. Donc c'est effectivement...
Et avec une qualité des effets spéciaux que je trouve quand même assez remarquable, même si effectivement on est dans une mise en scène qui est très, très frontale et très sommaire, il y a quand même ce désir de faire du vrai cinéma en tout cas, et de proposer quelque chose de très spectaculaire, et absolument dénué d'un quelconque humour, en tout cas dans cet extrait-là.
Ah oui, je crois qu'on ne peut pas imaginer pire horreur que cet extrait que vous avez parfaitement décrit. Voilà, mais c'est vrai qu'on est vraiment content de proposer au public un aperçu de, à la fois, enfin grâce à la sélection de ces fans de ces films japonais, ces auteurs japonais à la fois peu connus, et puis encore plus peut-être pour le cinéma thaï qui est encore, enfin bien sûr plus méconnu en France aussi parce que il est en rapport direct avec toutes ces croyances populaires et donc à des références qu'on n'a pas aussi en Europe. Donc c'est peut-être plus difficile d'accès, mais je suis sûr que le public l'appréciera.
Il y a une universalité de l'horreur qui fait que c'est accessible partout. Stéphane ouais. Dumenildo, pour conclure, sur ces visions. Alors là effectivement, c'est la tête volante, la tête coupée volante qui porte après elle... C'est les poumons, le cœur et les viscères.
Oui, bah c'est donc Krasoué qui poursuit des petits enfants pour les dévorer. Voilà, donc c'est un croque-mitaine thaïlandais.
Ultime réjouissance donc de cette exposition Enfer et fantômes d'Asie, les vampires sauteurs et les prêtres taoïstes contre les vampires sauteurs. C'est le titre qui est marqué d'ailleurs sur qui est indiqué sur cette espèce d'exposition. C'est pratiquement un titre de film, Julien Rousseau.
Troisième partie de l'exposition, la chasse aux fantômes, où là, trois vampires sauteurs accueillent le visiteur et ils font face à des prêtres taoïstes pour illustrer ce qu'on peut voir dans ce genre de film hongkongais début des années 80, des films de kung-fu zombies qui mettent en scène le thème de l'exorcisme dans le taoïsme. Et donc là, les vampires, ils portent des costumes donc, qui sont des collections du musée, donc ces robes de mandarin. Donc leur tête et leurs mains, particulièrement effrayantes, ont été réalisées par le studio QFX Workshop de Bangkok. En fait, l'idée qu'on retrouve ici et qu'on peut retrouver ailleurs, qui jalonne en fait l'exposition, c'est l'idée un petit peu du diorama, ce qu'on trouvait dans les muséums d'histoire naturelle et les musées d'ethnographie, cette présentation contextuelle des œuvres. Mais ici, on reprend cette idée de reproduire le contexte, de présenter les œuvres un petit peu en action pour reproduire des scènes de films. Et donc, on retrouvera après ce thème de la chasse aux fantômes dans des formes de théâtre, des théâtres rituels qui ont des fonctions de protection et d'exorcisme des lieux, et aussi jusqu'aux jeux vidéo, puisque dans la fin de l'exposition, il y a une salle de jeux d'arcade qui va de Pac-Man jusqu'au jeu de chasse aux fantômes en 3D.
Oui, ben les vampires sauteurs, ils deviennent extrêmement populaires dans les années 80 avec la série des Mr. Vampire de Rick Hillo, produit par Sam Wong. Voilà, qui sont des... Moi, j'assimilerais ça, je rapprocherais ça d'une sorte de comédie dell'arte chinoise, en fait. Il y a des choses qui viennent de l'opéra chinois. C'est à la fois extrêmement drôle, c'est pas vraiment effrayant. Mais en tout cas, ça va rendre très, très populaire cette figure du vampire sauteur, puisqu'on va même la retrouver dans des... chose absolument inattendue, comme par exemple une suite hongkongaise des dieux sont tombés sur la tête, ou le Bushman, voilà, qui trouvait la bouteille de Coca-Cola dans ce vieux film que tout le monde a oublié. Voilà, on rencontrait aussi des vampires sauteurs.
Oui, cette figure du vampire sauteur, enfin, c'est pas un hasard si c'est Sammo Hung, qui est un grand maître des effets spéciaux, qui s'en empare, parce que c'est une manière de renouveler à l'écran les combats et d'accentuer une dimension qui était déjà, qui est celle du burlesque.
Oui, tout à fait. Et à partir de là, ça va donner naissance à d'autres films, les histoires de fantômes chinois de Tzu Hark. Le vampire sauteur, il saute parce qu'il a été enterré avec les pieds liés. Donc, c'est ça l'origine de son saut. Et puis, on en trouve aussi des origines dans le film de la Hammer, les sept vampires d'or aussi, qui est une origine un peu...
Qui est un croisement, justement, entre la Hammer et le film des Shaw Brothers, en fait. C'était coproduit. Alors, en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'ici, le cinéphile français est un peu en terre connue. Je veux dire, à mauvais genre, on avait parlé de ces films de Mr. Vampire qui existent chez HK Vidéo, Histoire de fantômes chinois, la trilogie aussi disponible en DVD. Et c'est cette figure du moine taoïste qui, avec ses mantras, doit essayer de contrer les forces du mal qu'on retrouve développées dans le cinéma. Et ce qui est fort dans cette exposition, justement, c'est que d'un côté, nous, on connaissait pour cette fois-ci les films, et là, ça permet d'ancrer dans l'histoire et dans les rites du pays.
On voit aussi, par exemple, là, on voit un personnage de Mr. Vampire qui tient un miroir taoïste, voilà, qu'on retrouve aussi dans l'exposition. En fait, c'est des films qui sont à la fois drôles, burlesques, mais qui sont évidemment très, très respectueux des rituels et des traditions.
Juste un mot sur la scénographie, puisqu'en fait, je trouve que dans le cheminement de cette exposition, il y a un vrai suspense. C'est-à-dire qu'à chaque fois, il y a vraiment quelque chose de l'ordre du cinéma fantastique, puisque quand on passe en fait d'un dispositif à l'autre, on ne sait jamais trop à quoi s'attendre. Et c'est vrai que quand on arrive dans cette pièce avec ces trois vampires sauteurs, on est vraiment surpris. C'est comme si à chaque fois, à chaque changement de pièce, il y avait une sorte de twist. Et c'est vrai qu'il y a un côté effectivement... je le raccroche à une référence qui est très occidentale, mais un peu William Castle, en fait, d'une certaine façon.
Très bien, nous terminerons cette émission comme ça doit avec Christophe Beer pour une chronique, bien évidemment, japonaise.
Le marché de l'art le drague, mais Daisuke Ichiba ne renonce en rien à sa radicalité. Je n'ai pas fréquenté d'école d'art, Pour moi, elles ne font qu'imposer aux gens des carcans. Le dessin doit être un acte gratuit, vide de sens et entièrement libre, affirme-t-il à Xavier Gilles Néret, qui lui consacre un ouvrage somme chez Arsenic Gallery. Les mutilations, l'érotisme morbide, les vulves carnassières ne doivent pas réduire cet artiste japonais à l'étiquette impropre de l'héros-gourou. Néret cite plutôt Dada et l'énergie punk d'un courant graphique des années 1970, le Eta Uma, qui revendique l'affirmation des passions singulières contre les contraintes esthétiques et le professionnalisme. Maladresse virtuose est une bonne traduction. Fort de cette anarchie créatrice, plutôt que de suivre ce courant créé par Teruhiko Yumura, Ichiba s'affirme autodidacte et invente son propre style, Nandemo Ari, ouvert à toute possibilité. Le réalisme, l'abstraction, les motifs répétitifs, la bande dessinée, les dessins enfantins, le collage, dans un espace où tout se mêle et fusionne, sans rien abolir, en conservant les tensions et les disparités, en juxtaposant divers plans et manières de dessiner. Un art du chaos, selon Ichiba, un style hybride que Néret résume par le titre de son essai « Daisuke Ichiba, l'art d'équilibrer les dissonances ». Il fallait ce magnifique livre d'art à couverture toilée conçu avec un soin d'esthète, écrin luxueux doté de pages dépliantes pour cet éloge de l'impureté. Bien fait et mal fait, sophistication de l'encre de Chine et trivialité enfantine du pastel gras, santé et pourriture, le cacher et le montrer. Les oppositions sont inconciliables, l'harmonie impossible. Marqué dans son enfance par la découverte de charogne et la mort de sa mère, Ichiba fait résonner tout ce que la société refoule. L'irrémédiable chaos de la condition humaine, que symbolise la fille borgne aux cheveux noirs, beauté et laideur réunies, obsédant souvenir d'une camarade de classe dont le visage était souillé d'une blessure. Pour Néret, ses œuvres sont des blocs de sensations qui transcendent le souvenir et l'imagination par une faculté visionnaire. Citant Deleuze et Guattari, il le place au rang de ceux qui ont vu dans la vie quelque chose de trop grand pour quiconque, de trop grand pour eux, et qui a mis sur eux la marque discrète de la mort. Ajoutons à cette analyse une histoire des réseaux underground français, les premiers à diffuser, exposer et publier Ichiba, comme Paquito Bolino du Dernier Cri, son frère de l'enfer, pour qui l'underground est ce qui montre le beau dans le sale, ou ce cher Jacques Noël d'un regard moderne qui voyait Ichiba comme un dandy torsionnaire déchirant des sexes et qu'il mariait avec bataille et le surréalisme.
Merci à vous, donc Julien Rousseau et Stéphane Duménildo, de nous avoir cornaqué dans ce monde infernal, vampirique, spectral, donc dans l'univers de cette exposition Enfer et fantômes d'Asie, qui est visible au musée Quai Branly Jacques Chirac à Paris jusqu'au 15 juillet. Et vraiment, venez à pied, à cheval ou en voiture, ou en sautant comme les vampires, mais venez voir cette exposition, elle est véritablement extraordinaire. Toute l'équipe de Mauvais Gens vous remercie donc d'avoir suivi l'émission. Laurent Polleret, Siam Boutata, Claire Martin-Dugard, Sixtine Audebert, Philippe Rouillet, Fausto Fazulo, François Angelier et Christophe Beer. On se retrouve samedi prochain pour un peu de rédemption. Nous serons avec Léo Henry et Hildegard de Bingen. D'ici là, bonne nuit à tous.